Nous vous écoutons. Ne soyez pas gênés, nous sommes ici des frères et des sœurs dans la foi. Le but, c'est vraiment de s'enrichir les uns les autres. J'ai dit des questions, mais vous pouvez aussi faire des rajouts, il n'y a aucun problème.
Je voudrais revenir en fait sur un point que vous avez soulevé, qui m'a interpellé.
Non.
Lorsque vous avez cité qu'il est possible que des gens qui s'affilient à l'islam fassent des actes qui sont considérés comme du shirk.
Non.
Vous visiez le shirk akbar ou...
Le shirk al-amali. Oui. Shirk al-akbar, c'est ce qu'on appelle shirk al-atiqadi, c'est-à-dire celui de la conviction. C'est le shirk al-akbar. C'est unanime la définition.
Ça, c'est une
unité. Ah oui, oui, la personne qui remet en cause Dieu, subhanahu wa ta'ala, ses attributs, ou la prophétie de la sallam, ça, il n'y a rien à discuter. Ou celui qui met en cause, par exemple, que notre prophète est le dernier des messagers de Dieu, ça, c'est un shirk akbar. On ne discute pas. Mais shirk al-asrar, c'est ce qu'ils ont appelé shirk al-amali. Shirk al-amali, c'est dans l'action. La personne, elle affirme sa conviction de mouahid, elle ne remet pas en cause les dogmes, mais dans la manière d'être, tu vois qu'il y a du shirk. Et ça, c'est malheureusement l'apanage de la grande majorité absolue des musulmans dans le monde. Et parmi les signes distinctifs, c'est le culte des saints. Mais ces personnes qui vont chez les saints, entre guillemets, il y en a ceux qui sont des vrais awliya Allah et d'autres qui ne le sont pas. Mais lorsque tu interpelles cette personne et tu poses des questions d'ordre dogmatique, c'est-à-dire pour savoir s'il est mouahad ou non, bah c'est le tawhid qu'il a. Allah huwa al-muhyi, al-mumit, al-khalaq, al-razq, tout. Eh bien, pourquoi alors Mawla Idriss? Mawla Idriss, il y a un fa'ou, Sidi Mawla Idriss, ou parmi les pieux, etc. Il ne sait pas t'expliquer. C'est rentré dans ses mœurs, dans son usage, etc. Pour se marier, on doit lui visiter le modèle à la baraka. Pour se reconcilier l'enfant, il faut aller prendre la baraka, etc. Mais tu lui dis, mais qui est ton Seigneur? C'est Allah. Alors là, on fait la différence. C'est pour ça que nos savants, ils étaient très clairs en faisant la différence entre shirk al-atiqadi ou shirk al-amali. Shirk al-atiqadi fait sortir la personne de l'islam. Carrément. L'autre, non. Ils disent c'est dhalala. C'est pour ça, l'égarement est un terme qui est général. Mais on doit détailler. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps, parce que vraiment, c'est des questions pareilles, si on veut les analyser, l'étudier du point de vue islamique, mais du point de vue science islamique. Ça ne se fait pas en une heure, ce n'est pas possible. Le hadith de la Sallallahu Alaihi Wasallam lui-même, le hadith de la Sallallahu Alaihi Wasallam, il nécessite lui-même 2 heures qu'on s'assied à tête reposée, on décortique le hadith, il explique qu'est-ce qui est général dans ce hadith, comment il a été spécifié et tout, et ce n'est pas évident. Et c'est ce que moi je demande à mes frères et sœurs, c'est qu'ils prennent goût, comme ils lisent les livres simples et légers, qu'ils prennent goût à les livres, un peu les livres des sciences islamiques. C'est là-bas qu'ils vont trouver la matière qui leur permet d'aborder. Et tant qu'on ne fait pas ça, on étudie l'islam par procuration, et bien celui à qui on a donné procuration, il est trop bon comme il était trop mauvais. Et là, il y a un danger pour nous. Allah yahfadhak, Allah yabarak fik.
Comment est-ce qu'on peut comprendre la parole de l'imam Malik, rahimahullah, à propos de la bid'a al-hasana, où il dit que s'il y a une bid'a al-hasana, c'est que le prophète, il aurait... Il n'aurait pas transmis le message. C'est une parole qui est souvent rapportée.
Non, non. Le bid'a al-hasana, entre guillemets, qui lui donne ce qualificatif de hasana? Parce que c'est un terme creux. Mais la bid'a al-hasana, elle est acceptée déjà, parce que j'ai pas eu le temps. Et ce n'est pas possible de développer ici. On aurait dû développer en même temps, lorsqu'on parle de Bid al-Hasana, de Maslah al-Mursala. On aurait dû parler de Maslah al-Mursala. C'est-à-dire le principe de l'intérêt commun libéré. C'est-à-dire, l'islam contient toute règle légale, le Coran ou la Sunna, est basée sur un intérêt. On appelle ça Maslah al-Shara'iyya. C'est intérêt légal. C'est Allah qui l'a préconisé, subhanahu wa ta'ala. Alors, derrière la manière de se marier, de divorcer, de vendre, il y a une Maslah. Et cette maslaha, on l'appelle shara'iyya parce qu'elle est apparentée au shara, à la loi de Dieu. Mais les savants musulmans, Dieu leur a donné la possibilité d'apprécier le bien. Tant qu'il ne va pas être en opposé avec le maslaha qui est dans les textes. Alors cette appréciation de l'intérêt s'appelle maslaha mursala. Dieu ne l'a pas, subhanahu wa ta'ala, cité, ni son prophète, mais il ne l'a pas aussi banni. Et c'est cette masha al-mursala qui est derrière toutes les fatwas que vous entendez. Les fatwas qui changent par rapport au temps, au lieu, sont basées sur ce principe de masha al-mursala. C'est cette masha al-mursala qui a fait que les savants, les compagnons, ont décidé de réunir le Coran. Sur un intérêt de maslaha. C'est cette maslaha qui a fait que les compagnons ont décidé de bâtir des prisons. Avant, les musulmans étaient emprisonnés dans la mosquée. La mosquée est ouverte 24 sur 24, ne se fermait pas. On lui dit, tu ne bouges pas, il ne bouge pas. Il est emprisonné dans la mosquée, il ne sortait pas, il ne bouge pas. Après, on a fait une petite maison. La porte, elle n'était pas fermée à clé, la première prison. Elle était ouverte, mais les gens ne partaient pas parce qu'ils avaient la peur de Dieu et le respect de l'autorité. Après, on a mis des prisons avec du fer et des portes. Avant, le juge s'asseyait dans la mosquée. Les compagnons s'asseyaient dans la mosquée. Et puis après, Sayyidina Omar a vu que les choses ont évolué. Il a dit, on met sur pied les tribunaux avec des juges. Ça s'appelle Maslaha al-Mursala, d'organisation et d'autres. Donc, le bada, elle est en rapport avec la notion de Maslaha al-Mursala. L'imam Malik est un des champions et son école de Maslaha al-Mursala. Donc, il ne peut pas avoir dit ça dans ce sens. Mais il parle de ceux qui usent de la bid'a hasan, entre guillemets, pour mettre en cause la sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est clair, s'il est en opposition, elle n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam institue une règle, et toi tu dis, je la pousse, et je la situe à sa place une bid'a. Ça c'est une bid'a dhalala, hadi. Si elle ne s'oppose pas à la sunna, et si elle est louable, elle est considérée bid'a hasana. Maintenant, je vais être provocateur en même temps répondre, en même temps, et à avancer dans ce que j'ai dit tout à l'heure pour ne pas vous garder plus, la question du chapelet, par exemple, le misbaha. Certains disent, elle est bid'at zalala, on ne l'utilise pas, parce que le prophète a utilisé ses doigts. D'accord, le raisonnement, il tient. Mais est-ce que le principe d'utiliser le misbaha est une bid'at zalala? C'est ça la question. Et que lorsque moi je veux faire 1000 fois la ilaha illallah, ou que je veux faire 1000 fois, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Est-ce que le fait que je veux m'imposer comme dhikr, comme word, journalier, 1000 fois, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, est-ce que c'est non conforme à la sunna? Non, c'est conforme à la sunna, puisque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths faisant l'éloge de قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, de la sourate. Mais vu que je vais faire 1000 fois, et je veux m'astreindre à 1000 fois, je ne pourrais pas les faire avec mes doigts. J'ai le choix à mettre des petites pierres, et chaque fois que je termine une centaine, je mets une pierre, ou d'utiliser un moyen qui me permet d'avoir mes 1000 que je veux lire chaque jour. L'imam Abu Huraira radiallahu anhu, je dis imam parce que imam veut dire toute personne qu'on peut prendre comme modèle. Parce que le terme imam s'utilise dans différentes, comme vous savez, définitions. Les compagnons du prophète, Emmet al-Huda, ce sont les imams de la guidance. Sayyidina Abu Huraira s'est astreint à faire chaque nuit, 1000 fois, à lire chaque fois, 1000 fois, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait un fil avec des nœuds, 1000 nœuds, et ne dormait pas chaque soir avant d'avoir terminé 1000 fois, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Pour calculer ces 1000. Vous avez ça dans Jam' al-Hikam. Ibn Rajab, c'est ça? Al-Hikam. Voilà. Vous avez cette information à rapporter. Est-ce qu'il a fait une bid'at dhalala? Non. Non. Il a fait un moyen pour pouvoir faire son dhikr comme s'il est astreint à le faire. Moi, je n'ai pas de sabha. Mais pour dire, si je vois un musulman qui dit, moi, je fais chaque matin 100 fois la ilaha illallah et 100 fois salat ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, et je fais ça midi, je fais le soir. Est-ce que le fait qu'il dit qu'il va faire 100 fois est une dhalala? Non. Hein? Parce qu'il a utilisé la formule que le prophète lui a transmise. Il a hérité de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les mérites de la ilaha illallah, afdhal al-dhikri. Le meilleur des dhikr, c'est la ilaha illallah, dit Rasoul Sallam. Il a dit, le meilleur dhikr que j'ai dit moi et les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah. Tu la répètes. Et tu t'astreins à réfléchir sur son contenu, jusqu'à ce que tu t'imprègnes avec cette parole, conformément à la sunna de Rasoul Sallam. Je n'ai pas dit que tu vas faire tashtih, ni avec bendir. Non, tu vas être seul et tu vas répéter la ilaha illallah et tu réfléchis sur son contenu. Et tu vas faire salat ala Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est conforme à la sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de multiplier les prières sur lui, et surtout le jour du vendredi. Alors, je veux avoir un moyen qui me permet de me faire toutes mes 300, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Moi, personnellement, Je ne trouve pas, lorsque je vois comment Sayyidina Abu Hurayra a fait, et d'autres, je ne trouve pas de texte qui va interdire à ce que j'utilise ce moyen. Je ne trouve pas de texte qui m'interdit d'utiliser ou de dire à personne, c'est haram que tu utilises. Moi, ce qui me dérange, c'est le terme haram que tu utilises, ce moyen. Bid'at dhalala, que tu utilises ce moyen. Maintenant, est-ce qu'on en fait un débat communautaire qui divise les musulmans dans chaque mosquée? Ça, c'est une deuxième question que je pose. Et nous avons des actes du domaine, ce qu'on appelle de la pratique juridique, ce qu'on appelle le fiqh et le furu', qui sont au sujet de discussion entre les savants musulmans, et que nous, on prend la balle sans connaissance, sans lecture approfondie, et on se lance avec ça dans une guerre pour réformer la communauté. Alors que la réforme principale de la communauté doit être une forme dogmatique et une réforme là-dedans de sincérité dans l'adhésion et appel à l'unité, et puis on fait le travail après des déblayages. Unissons-nous, alignons-nous nous, sur une même ligne de conduite, puis on fait le travail, ensemble, ensemble, pas en s'attaquant les uns les autres, ensemble. Et on arrive à faire du changement, ma soeur.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.
Je n'ai pas de science pour blâmer l'acte que vous avez cité, donc par rapport au tasbih, mais je sais qu'il y a un hadith qui est enfin, une histoire qui est arrivée donc après la mort du prophète, où des compagnons s'étaient réunis à la mosquée et ils ont été blâmés par un sahabi parce qu'ils avaient utilisé des pierres.
Oui. C'est son avis. Ça s'appelle dans les sciences islamiques Madhab al-Sahabi, l'avis du compagnon. L'avis du compagnon, c'est-à-dire son appréciation. L'appréciation du compagnon n'est pas une révélation. C'est pas une révélation. C'est pour ça que je dis ce qui donne force de loi, par exemple, à la prière du Tarawih, c'est que Sayyidina Omar, il a consulté les compagnons. Et donc, c'est devenu comme un consensus, un ijma'. Et l'ijma' est la force. Et il y a, toutes les générations sont unanimes des savants de l'islam, que l'ijma' des compagnons, il est incontournable. Il est incontournable, il a une force. Et c'est pour ça qu'il a apprécié, c'est son appréciation. Mais son appréciation ne peut pas avoir force de loi unique et référence qu'on doit, par laquelle dire c'est interdit en islam de faire ceci et cela. C'est une appréciation. Et vous avez beaucoup de hadiths, on ne va pas dire de hadith, mais de transmissions de athar, de compagnons qui apprécient les choses autrement, que les autres ne sont pas d'accord. Et que les savants musulmans qui sont venus après eux ont débattu. Madhab al-Sahabi, il y a des écoles qui le prennent en considération et d'autres non. Dans le droit musulman, dans les sources de la règle de droit, il y a ceux qui n'apprennent pas. Madhab al-Sahabi comme une référence. Vous avez des savants musulmans de la 4e, 5e génération, ils vous disent lorsque le compagnon se prononce, le compagnon, son avis est égal à tout érudit. Il y en a. C'est dans le droit musulman ça, hein, parmi les premières générations de l'islam. Mais lorsqu'il y a un consensus, alors là, personne ne met en cause. Personne. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis, moi, ce que moi je vous demande, c'est d'aller lire un peu, même si c'est difficile au début, mais vous allez vous habituer avec la terminologie, lire les livres de Usul. Et parce que là, ça vous permet, surtout Usul Fiqh, ça va vous permettre de comprendre les positions prises par les différents juristes et les différentes tendances. Parce que chaque savant, lorsqu'il se prononce, il a une méthodologie juridique qu'il suit. C'est-à-dire quoi, une méthode? Il a une lecture qu'il fait avec des outils. Et lorsque vous comprenez les outils qu'il utilise, vous comprendrez l'avis aussi de l'autre qu'il a, d'autres outils qu'il utilise. Et c'est très important. Comme par exemple, vous pouvez avoir des divergences à cause de la lecture grammaticale. J'explique en deux mots. Vous savez que lorsque vous regardez un peu le livre de droit concernant l'essuyage des cheveux. Nous sommes d'accord? Vous avez la tendance, les mains mal, c'est toute la tête. La tendance d'Abu Hanifa, c'est l'équivalent de la main uniquement. Et chez les Shafi'ites, vous faites ça, vous avez fait l'essuyage. Comme ça, une petite touffe. L'origine de la divergence, c'est la divergence concernant la lecture grammaticale de la lettre Ba. Et dans Usul Fiqh, il y a un chapitre qui est des plus difficiles dans cette science, qu'on appelle les études linguistiques, les chapitres linguistiques. Alors, il y a ce qu'on appelle les lettres, les particules et leur incidence sur la règle juridique. Une particule comme Haf al-Ba, ou Fa, ou Fawqa, ou Ila, elle a une incidence sur la règle de droit qu'on tire. Parce que du point de vue grammatical, eh ben, Les grammairiens ont divergé pour comprendre ce terme. Et les grammairiens, ils ont compris ça de la langue des Arabes. Alors, bi, lorsque Dieu dit biru aussi, comme l'imam Malik a dit avec vos mains, les deux, vous devez vous essuyer. Le kol, on appelle ça en arabe. Et les autres, ils ont compris at-tab'id, veut dire le ba'v, une partie. Et la grammaire arabe dit, vous dites, j'ai essuyé ce mur à biadi, par ma main. Ça veut dire deux choses, soit que vous êtes resté une heure, à essuyer tout le mur, ou soit vous avez touché avec votre main et vous avez essuyé le mur. Et vous avez essuyé le mur, bien que s'il s'agit d'une partie du mur. C'est ça qui a donné divergence d'avis juridique, ce problème grammatical. Vous allez me dire, mais le prophète, mais la lecture de ce qu'a fait le prophète est très importante aussi, parce que ce que le prophète a fait est sujet de débat, comment est-ce qu'on comprend ce qu'il a fait? Il a essuyé sur le turban, tout en essuyant uniquement le début, puis le turban. Mais aussi, il a essuyé rapidement ou non, en cas où il y a l'eau et peu. Et tous ces éléments sont réunis, font que vous avez des divergences juridiques. Et je ne peux ni moi ni vous éliminer ces divergences. Jamais de la vie. Parce qu'elles sont justifiées, motivées. Et c'est ça que vous devez comprendre lorsque vous abordez toute question. S'il s'agit d'une unanimité, on ne débat pas. Il y a unanimité, on a compris, point à la ligne et on passe. Mais s'il s'agit de divergence, regardons pourquoi les autres divergent avec moi, la vie à laquelle j'adhère, que j'ai choisi. Et est-ce que la vie à laquelle j'ai adhéré, il est motivé convenablement? C'est-à-dire, un appel à tous les frères et sœurs ici, lorsque vous adhérez à une règle juridique, à un avis, allez chercher pour comprendre le savant que vous suivez, sur quoi il s'est basé. Comme ça, vous êtes réconforté déjà. C'est-à-dire, sortez, et je sors moi aussi, je ne veux pas le sortir, du conformisme uniquement. Que votre conformisme et le mien soient au moins ne serait-ce qu'éclairé par un savoir. Moi, je ne vous appelle pas à devenir tout le monde spécialiste, mais au moins comprenez comment les spécialistes fonctionnent. Et comme ça, vous avez une force dans ce que à laquelle vous adhérez, à la vie, et vous comprendrez la vie de l'autre aussi. Et à ce moment-là, vous allez avoir un esprit très large pour accepter votre frère et sœur, s'il y a des divergences. Et si votre frère et sœur il est dans l'erreur, je vous appelle ce que j'ai dit tout à l'heure, alors ayez de la patience pour réformer votre frère et sœur. Wallahu a'lam. Naam. Dernière intervention, inshallah, pour libérer les frères et les sœurs. Tafadhal.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
C'est comme si on lit un verset abrogé et qu'on ne lit pas la note qui est en bas.
Ben voilà, exactement. Mais on trouve beaucoup de frères, hein, qui, surtout lorsqu'il s'agit de position des non-musulmans et des mécréants, ils lisent beaucoup de versets abrogés. Mais ils ne vont pas lire ce qu'ont dit les exégètes sur ce verset. Ils ne vont pas lire le droit musulman qui dit sur les relations internationales. Parce que les fuqaha musulmans, ils ont parlé dans les livres de droit. Vous avez les chapitres qui parlent des relations avec les non-musulmans en état de paix, en état de guerre. Ils ne lisent pas et prennent le verset et ils disent, voilà ce que dit l'islam. La conséquence, une catastrophe sur notre dos. Et on attribue à l'islam ce qu'il ne dit pas. Dans un bien contexte bien précis, etc. Tu comprends? C'est ça. D'où le fait, par exemple, moi je vous recommande d'aller lire, d'avoir chacun chez soi un livre des sciences du Coran. C'est nécessaire que vous ayez le livre des sciences du Coran. Comme ça vous comprenez l'historique du Coran, comment fonctionne le Coran, comment ses mutations, toutes les sciences que vous devez maîtriser un petit peu pour lire un livre d'exégèse. Si vous ne faites pas ça, ben, vous allez rester vraiment esclave de ce que disent les autres. Et ce que disent les autres, il y a du faux, du bon, du mauvais, du mal intentionné, de tout ce que vous voulez, il y a de tout. Surtout nous, maintenant, cette génération. On a de tout. Puisque c'est un marché ouvert. L'écriture dans les sciences islamiques, que ce soit en arabe ou en français, est un marché ouvert. Les ennemis écrivent, même les non-musulmans écrivent, tout le monde écrit. Même les traductions du Coran, ils le font pour nous. Ceci dit, Nasallallahu alayhi wa sallam, habba rasulallah. Qu'Allah nous accorde l'amour de son prophète. Parce que c'est ça que nous recherchons. En fin de compte, Wallahu a'lam. Allahumma ya Rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamid Majid. اللهم زدنا من فضلك ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونعوذ بك من عذابك والنار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية ودوام العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وارزقنا حب من يقربنا إلى حبك وحب نبيك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم اكرمنا بشفاعة المصطفى واجعلنا اللهم من أحبابه وأتباعه ومن المحشورين في زمرته اللهم ألف بين قلوب المسلمين والمسلمات اللهم أدم ودهم ووثق اللهم رابطتهم اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا واجعلنا اللهم من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجز عنا سيدنا محمدا خير الجزاء اللهم اجز عنا الصحابة الكرام خير الجزاء اللهم اجز عنا التابعين وتابعيهم خير الجزاء اللهم اجز عنا العلماء خير الجزاء واجز عنا من علمنا ومن له فضل علينا ومن أوصانا بالدعاء واجز عنا والدينا خير الجزاء ووفقنا لما تحب وترضاه اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم وفقنا لما تحب وترضاه واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك واللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأيد عبادك في كل مكان للمجاهدين يا رب العالمين اللهم ثبتهم يا أرحم الراحمين اللهم ثبتهم يا أرحم الراحمين واللهم ثبتهم ووحد جماعاتهم اللهم اهدنا سبل السلام وتوفنا وأنت عنا راض يا ديان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا أو ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.